France Culture, avoir raison avec Karl Polanyi, par Aliette Ovine.
Bienvenue dans l'avant-dernier volet de la série « Avoir raison » avec Karl Polanyi. Aujourd'hui, quatrième épisode, « L'homme n'est pas un être économique ». Aucune société ne saurait naturellement vivre, même pour peu de temps, sans posséder une économie d'une sorte ou d'une autre. Mais avant notre époque, aucune économie n'a existé qui fût, même en principe, sous la dépendance des marchés. Pour défendre cette position bien tranchée, retracer un siècle d'histoire économique ne suffisait visiblement pas à Karl Polanyi. Après avoir publié La Grande Transformation, il est plus que jamais déterminé à démontrer qu'une société entièrement gouvernée par les lois du marché n'a rien de naturel ni d'universel. Il n'hésite donc pas à remonter plus loin encore dans le temps. Des marchands de Babylone au fonctionnement de l'économie en Grèce antique en passant par le Dahomey, il se fait anthropologue et montre qu'il existe d'autres façons d'organiser l'économie sans passer par un marché tout-puissant. Nous avons, dit-il, de bonnes raisons pour insister sur ce point avec toute l'énergie dont nous sommes capables. Et c'est également avec toute l'énergie dont nous sommes capables que nous allons discuter de ces questions aujourd'hui avec Alain Caillé. Vous êtes sociologue et économiste, vous avez été professeur de sociologie à Nanterre et vous êtes l'auteur de la préface de Commerce et marché dans les premiers empires sur la diversité des économies, qui est un ouvrage qui rassemble les travaux de Karl Polanyi et de ses disciples, et qui a été édité en 1957 pour la première fois aux États-Unis, puis réédité en français aux éditions du Bordelot en 2017, et dont la postface a été rédigée par notre deuxième invité, Alain Guéry. Vous êtes historien, vous avez été chercheur au CNRS. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et c'est désormais une tradition dans cette émission. Nous allons tout de suite écouter notre invité d'hier, Nicolas Postel, qui nous raconte ce que voit Polanyi dans les formes anciennes de société.
C'est bien sûr un des aspects essentiels des travaux de Polanyi que de relativiser, même de montrer l'exceptionnalité de notre système, mettant la société à la remorque de l'économie. Tout son travail consiste à montrer que l'économie est en général insérée dans des structures sociales qui lui donnent sa forme, redistribution, symétrie, et puis don contre don, y compris économie domestique, et puis y compris d'ailleurs le marché. Polanyi pense que le marché est une forme qui a toujours existé, simplement c'est pas forcément un marché fondé sur la concurrence. C'est plutôt un marché fondé sur la diversité et c'est un marché fondé sur l'échange dans lequel les individus, on pourrait parler, penser à la règle du juste prix, s'accordent et en moment même où ils échangent, font preuve de raison pratique. On n'est pas dans des marchés de type marché financier que nous connaissons aujourd'hui, ou bien vous pouvez pas dire lorsque vous êtes sur Amazon et que vous commandez votre dernier iPhone pour vous aliéner vous-même, et bien que vous êtes dans une situation de relation sociale. Et pourtant, voilà, donc contre cette forme de marché asocial pour des formes de commerce qui créent du lien social.
Alors Alain Guéry, que gagne la pensée de Polanyi à se pencher sur le fonctionnement de sociétés aussi lointaines ? Pourquoi il est important pour son raisonnement de remonter aussi loin dans le temps ?
Il semble qu'il ait voulu vérifier la pertinence des concepts qu'il avait mis en évidence et des descriptions qu'il avait mises en évidence au moment de la rédaction de la Grande Transformation. Et peut-être a-t-il pensé que c'est le meilleur moyen de le faire, c'était d'aller voir du côté des sociétés dites déjà à son époque les plus traditionnelles possibles, par opposition aux sociétés industrielles, pour vérifier cette pertinence de ces concepts.
Et peut-être qu'il y a aussi l'idée que le problème de l'histoire très ancienne, enfin ancienne à ce point, c'est qu'elle est difficile à saisir directement. Comment Polanyi surmonte cette difficulté ?
Alors c'est là qu'il a cette idée du rapport entre histoire ancienne de l'Antiquité et anthropologie. De ce point de vue-là, il a eu une grande influence sur les changements dans cette histoire de l'Antiquité.
Alain Caillé, vous êtes avec nous à distance. Comment vous comprenez justement cette démarche de Karl Polanyi qui consiste à remonter l'histoire jusque quasiment à ses origines ?
Bien, Alain Guéry l'a très bien dit. Il fallait vérifier effectivement certaines hypothèses qu'il avait présentées dans La Grande Transformation. Mais on peut dire peut-être la chose de manière un petit peu plus générale, un peu plus précise. Et c'est l'idée qui me venait à l'esprit ce matin en réfléchissant à ce que j'allais bien pouvoir vous dire. Et c'est que, en fait, le véritable objet de Polanyi, c'est de repenser la démocratie, l'économie qui peut être adaptée à une démocratie authentique, une démocratie proprement humaine. Et son obsession, c'est d'apporter la preuve que la démocratie ne repose pas sur le marché. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va essayer de montrer à propos de la Grèce, en disant l'invention de la démocratie précède l'émergence du marché. C'est vraiment ce qui l'obsède littéralement. Et donc, de manière plus générale, pour montrer ça, et là, je vais faire un écho avec ce que dit Marcel Mauss dans l'essai sur le don de 1925. Un texte qui est étonnamment proche de tout ce que fait Polanyi, même si, curieusement, Polanyi ne le cite pas.
Oui, il faut dire qu'il n'a jamais lu Marcel Mauss.
Il semble n'avoir jamais lu Marcel Mauss, ce qui est tout à fait sidérant. Et je reprends la phrase de Marcel Mauss, « L'homme n'a pas toujours été un animal économique. Il n'y a que peu de temps qu'il l'est devenu et qu'il s'est doublé d'une machine à calculer. » C'est exactement ce que Polanyi essaie de montrer. Et pour montrer que l'homme n'a pas toujours été un animal économique, il faut montrer que le marché n'a pas toujours existé, ni le marché tel que l'on le connaît, ni ce qui aurait pu le précéder, c'est-à-dire les systèmes de troc, de donnant-donnant. Non, les relations sociales ont fonctionné sur d'autres logiques que le donnant-donnant, que le marché. Et donc, on peut fonder la démocratie sur autre chose que le marché.
Et on retrouve
ça
bien là
un enjeu colossal aujourd'hui.
On retrouve là toute l'originalité de la pensée de Karl Polanyi qui consiste à lier société, économie et politique. Alors, Alain Guéry, on l'a compris d'ailleurs tout au long des trois épisodes précédents, le travail de Polanyi se situe justement à la frontière de plusieurs disciplines, l'histoire, l'économie, la sociologie et aujourd'hui on découvre l'anthropologie. À quel moment de sa vie il décide de se tourner vers cette discipline-là et vers ces terrains-là?
Alors, on peut penser qu'il décide de procéder par l'apport de l'anthropologie pour différentes raisons. Une première raison, c'est quelque chose qui est commun en histoire à beaucoup d'historiens de son époque et du 19e siècle. Et on peut penser qu'il en a lu. C'est-à-dire, si je prends un exemple, Michelet commence par faire l'histoire de la Révolution française et après, il cherche à comprendre d'où vient cette Révolution. Et donc, il va en amont et il reprend l'histoire de la France, du Royaume de France, en l'occurrence, en amont. Et je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'historiens, mais aussi dans beaucoup de sciences sociales. Cette manière de procéder en prenant quelque chose qui est presque actuel pour les historiens ou d'un moment très précis de l'histoire et de chercher ensuite, en amont, comment on peut trouver les raisons de ce bouleversement ou de cette transformation, dirait Karl Polanyi.
Et il faut dire qu'il n'accomplit pas ce travail qui est quand même assez monstrueux tout seul. Il a des élèves, il a des disciples, et le résultat est publié dans Commerce et Marché, dans les premiers empires. Il faut dire que c'est un travail collectif.
C'est un travail collectif dont, visiblement, quand on le lit, il a été le maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'il a beaucoup discuté avec eux, ou même ils ont pu être ses élèves, ses collègues, etc. Il y a un texte éclairant, d'ailleurs, là, dans le livre de Arensberg sur l'anthropologie comme histoire, qui explicite assez bien la chose.
Je voudrais terminer cette discussion du comparatisme historique avec une figure qui s'est particulièrement illustrée dans ce domaine. C'est Karl Polanyi. Parce que Polanyi offre une illustration exemplaire d'une manière de comparer qui tranche sur celle des autres historiens. Au contraire de Finlay, au contraire de Détienne, ou au contraire d'ailleurs de la plupart des historiens ouverts au comparatisme, Karl Polanyi ne part pas de l'étude d'une expérience historique singulière ou d'un genre d'institution qui lui est propre et dont il va ensuite enrichir la comparaison ou la compréhension en mettant cette expérience historique ou cette institution au regard d'expériences historiques ou d'institutions analogues. Polanyi, il part d'une question, et c'est une question large. Quelle est la place de l'économie dans les sociétés qui ne sont pas dominées par le marché?
Alors Alain Caillé, on entendait à l'instant un extrait du cours au Collège de France qu'a donné l'anthropologue Philippe Descola et qui souligne toute l'originalité de la démarche comparatiste de Karl Polanyi. Alors à l'instar de Descola, nombreux sont les lecteurs de Polanyi et d'ailleurs lui n'est pas le seul à avoir lié anthropologie et économie. On peut citer à cet égard Maurice Godelier et je crois d'ailleurs Alain Caillé que c'est par son biais que vous avez découvert la pensée de Karl Polanyi avant même que ce dernier soit publié en France.
Oui, j'étais très content d'entendre Philippe Descola. Je ne savais pas qu'il était lecteur de Polanyi.
Tout à fait.
Et ça m'a fait plaisir. Et oui, pour ma part, j'ai découvert Polanyi bien avant qu'il soit traduit en France, et en suivant un cours de Maurice Godelier dans les années, j'ose pas trop dire quand, qu'est-ce que ça...
Bon, on ne vous demandera pas les détails.
Non, on ne demandera pas les détails. Je crois qu'on était 4 ou 5 à suivre le cours. Et il présentait justement ce livre et tout le débat entre ce qu'on appelait les anthropologues formalistes et les anthropologues substantivistes. Voilà. Et moi, j'ai été particulièrement intéressé parce que j'étais également lecteur de Marcel Mauss. Et puis surtout, je suivais à la fois des études de sciences économiques et des études de sociologie. Et il n'y a pas deux visions plus différentes, surtout à l'époque, de ce qu'est l'humanité, ce que sont les sociétés. Pour les économistes, tout repose, sauf cas particulier, tout repose sur les calculs d'individus rationnels. Pour les anthropologues, pour les sociologues, au contraire, la société repose sur tout autre chose. Voilà. Et donc Polanyi apportait le moyen de lier ces deux champs, ces deux domaines.
Et ça, c'est une
je
démarche.
Pour dire un peu plus précisément.
Mais par ailleurs, c'est une démarche qu'on retrouve chez de nombreux autres anthropologues et jusqu'à aujourd'hui, on peut peut-être citer ici la démarche et les travaux de l'anthropologue David Graeber qui est décédé en septembre 2020. Mais c'est une démarche qui est très moderne finalement.
Très moderne, je ne sais pas. En tout cas, la revue du Mauss que j'ai fondée, dans laquelle David Graeber a beaucoup écrit, se veut une revue de sciences sociales généralistes pour laquelle si on fait de la science sociale sérieusement, on est à la fois historien, anthropologue, économiste, sociologue, politologue, etc. Mais ce que je voulais dire plus précisément sur l'intérêt de Polanyi central. Je disais tout à l'heure, pour lui, il s'agit de montrer que la société peut reposer sur autre chose que l'homo economicus. Et plus précisément, elle peut reposer sur autre chose que la recherche de faire face, des moyens de faire face à la rareté matérielle. Et ça, c'est un enjeu colossal parce que tant la pensée libérale que la pensée marxiste posent que, à l'origine de l'histoire humaine, il y a la lutte contre la rareté matérielle. Et après, tout s'en déduit. Si le problème fondamental de l'humanité, c'est la rareté matérielle, alors il faut produire toujours plus. Mmh. Et vous voyez les problèmes écologiques que ça peut poser aujourd'hui. Ce qu'essaie de montrer Polanyi, au contraire, c'est que dans les sociétés archaïques, et notamment traditionnelles, on ne souffre pas de la rareté. On ne souffre pas de la rareté. Ça a été repris par d'autres anthropologues, comme Marshall Salins, par exemple. Mmh. Et il est même plus provoquant en disant, à certains égards, c'est le marché qui crée la rareté. Parce que à partir du moment où on dépend du marché et non pas de l'aide de ses proches ou de sa famille pour accéder aux moyens de subsistance, aux moyens de satisfaire les besoins matériels, à partir du moment où on dépend du marché, alors là, on est vraiment dans la rareté matérielle.
Et ça, on va entrer plus en détail sur ces questions-là, avec notamment la question de l'importance que Polanyi accorde à la subsistance. On écoute tout de suite un extrait de l'ouvrage de Karl Polanyi.
Aristote avait raison. L'homme n'est pas un être économique, mais un être social. En se procurant des biens matériels, son but n'est pas de préserver son intérêt personnel, mais plutôt de s'assurer de la bienveillance, un certain statut et des avantages sociaux. Il accorde de la valeur aux choses possédées, surtout en tant que moyen pour parvenir à ses fins. L'économie de l'homme est en général immergée dans ses relations sociales. Pour faire simple, on a découvert que l'homme était sensiblement le même à travers les âges. Si l'on considère ces institutions, non pas séparément, mais en relation les unes avec les autres, L'homme se comportait généralement de manière largement compréhensible pour nous. Ce qu'on a interprété comme du communisme était simplement le fait que le système productif ou économique était habituellement organisé de telle sorte qu'aucun individu ne fût menacé de famine. Sa place près du feu de camp et sa part des ressources communes lui étaient assurées, quel qu'ait été son rôle dans les activités de chasse, de pâturage, de labourage ou de jardinage.
Nous écoutions un extrait de l'article rédigé en 1947, « La mentalité de marché est obsolète », rédigé par Karl Polanyi, bien sûr. Et d'ailleurs, la version française est disponible sous la forme d'un très court essai qui a été publié aux éditions Alia en 2021. Alors, on l'entend, Alain Guéry, dans cet extrait-là, Polanyi insiste énormément sur la notion de subsistance, sur l'idée que, quoi qu'il arrive, dans les sociétés archaïques, dans les sociétés avant le 19e siècle, l'homme ne pouvait pas mourir de faim, car sa subsistance serait toujours assurée. Pourquoi il insiste autant sur cette notion ?
Alors là, il y a un problème avec Karl Polanyi. Parce que ce qu'il dit est à la fois exact, l'économie que les historiens appellent l'économie de subsistance, précisément, est une économie dominante jusque très tardivement, jusque pour l'Europe occidentale au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et pour le reste de l'Europe encore plus tard, au XIXe siècle. Là où il y a problème, c'est que l'économie de subsistance ne permet pas, dans tous les cas, d'assurer le bien-être de l'être humain et même son être. Il y a des crises de subsistance qui sont liées à des événements climatiques, qui sont liées aussi à un continuum du phénomène de la guerre pendant qui existe déjà dans les sociétés primitives et qui vient jusqu'à nous et qui trouble ce qu'il dit.
Et ça, Polanyi, ces phénomènes de guerre, de famine, on se doute bien que effectivement au Moyen-Âge ou même avant, l'homme mourait de faim. Ça, Polanyi, ces faits-là, l'ignore consciemment.
Je ne pense pas qu'il l'ignore. Je pense qu'il érige ce qu'il dit en modèle d'économie. Je crois que le but de Polanyi est de refonder la science économique, peut-être en la resituant pour ce qu'elle est finalement, c'est-à-dire la branche de la sociologie qui s'occupe seulement des relations à base d'intérêts.
Voilà, c'était dans le but de désacraliser peut-être cette science, entre guillemets, dite économique.
Parce que même à son époque, on ne peut pas ignorer les crises de subsistance.
Bien sûr. Alain Caillé, vous souscrivez à cette analyse, cette intention de Polanyi de désacraliser la science économique, de se servir des exemples du passé pour expliquer le présent ?
Oui, totalement. D'ailleurs, plus généralement, l'extrait que vous avez donné est très intéressant, parce qu'on peut le systématiser, le généraliser un petit peu. Au fond, que nous dit Polanyi, c'est que l'homme n'est pas d'abord un être de besoin. Et ce qu'il cherche, c'est, on le dirait dans un langage moderne, il cherche à être reconnu. Il cherche à être reconnu comme ayant de la valeur auprès des autres humains. Voilà, ça, c'est le point fondamental. Alors après, il se trouve quand même que pour être reconnu, il faut quand même être en vie et pouvoir manger. Ça, c'est la question de la subsistance. Alors, bien, Alain Guéry a très bien dit ce qu'il en est pour l'Europe. Si on traite les sociétés archaïques, on ne peut pas ne pas évoquer l'article célèbre de Marshall Salins qui s'appelait « Une société d'abondance au paléolithique », montrant que dans ces sociétés d'avant l'invention de l'agriculture, on ne travaillait en moyenne que 4 heures par jour. On ne travaillait entre guillemets. Voilà, donc il y a une très très large discussion à mener sur cette question de la rareté, du rapport aux besoins, etc.
Et vous avez évoqué, avez évoqué l'idée qu'il y avait des économistes dits substantivistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste d'être économiste substantiviste et en quoi il s'oppose à une autre vision de l'économie, peut-être plus formelle?
Voilà. Je crois que ça veut dire très très simplement, la thèse de Polanyi, c'est que les moyens de satisfaire les besoins, notamment les besoins matériels, peuvent être obtenus tout à fait indépendamment de l'économie de marché. Et sa thèse, c'est que la science économique moderne, à partir du 19e siècle, s'est fondée, et même surtout la fin du 19e siècle, s'est fondée sur l'idée que non, le seul moyen d'organiser l'économie de façon à satisfaire les besoins, c'est de passer par le marché. Voilà.
France Culture, avoir raison avec Karl Polanyi, par Aliette Ovine.
Alors, on le disait à l'instant, toute la thèse de Polanyi consiste à montrer qu'il n'existe pas de marché d'ordre naturel, mais qu'il existait dans les sociétés archaïques des formes d'économie sans marché, ou en tout cas sans marché autorégulateur, comme il le dit. Quelles sont les formes d'échange? Comment on peut penser l'économie dans les sociétés sans pour autant qu'elle soit soumise au marché autorégulateur? Comment s'organise le commerce dans ces sociétés-là, Alain Caillé?
Voilà. Alors, soyons clairs, Polanyi ne dit pas du tout qu'il n'y a pas de commerce ou qu'il n'y a pas de lieu de marché.
Exactement.
Alors, au contraire, il y a des formes d'échange et de commerce au sens très général du terme, tout à fait importantes, et d'ailleurs sur des très longues distances, même dans la préhistoire. Et de même, il y a des lieux de marché. Mais la thèse de Polanyi, c'est que ce commerce ne s'effectue pas sous la forme du marché que connaissent les économistes, c'est-à-dire à partir de la loi de l'offre et de la demande. Et de même, sur ces lieux de marché, il n'y a pas de formation des prix sur le mode qu'analysent les économistes. Alors, quelles sont les formes de commerce? Quelles sont les formes d'échange selon Polanyi? Il en distingue 3 ou 4, c'est pas d'une clarté absolue. Il distingue d'abord ce qu'il appelle la réciprocité, fondée sur un principe de symétrie. Mm-hmm. C'est le don contre don, dont parle Marcel Mauss, qu'il ne cite pas. Bien. Après, il parle de ce qu'il appelle la redistribution. La redistribution qui repose sur un principe d'asymétrie, il faut qu'il y ait un centre, un État, qui reçoit un certain nombre de ressources et qui les redistribue. Mm-hmm. Et puis, il y a l'échange, alors de marché, mais c'est là où il y a des distinctions à faire, très importantes, entre deux types de marchés. Ce qu'on peut appeler les marchés régulés et les marchés autorégulateurs, self-regulated, comme dit Polanyi. Le marché donc que théorisent les économistes, c'est le marché autorégulateur, sur lequel les prix dépendent de la confrontation entre une grande masse d'offres et une grande masse de demandes. Dans la plupart des marchés historiquement existants, le prix ne se forme pas nécessairement par une confrontation de l'offre et de la demande. Le prix est fixé par régulation sociale. Mmh. C'est ce que montre Polanyi, par exemple, à propos d'Aristote, en disant Aristote n'analyse pas le marché comme les économistes. Il se demande comment doit fonctionner le marché de façon à ce que puisse subsister la communauté politique, la koikonia.
Et justement, en parlant d'Aristote, c'est intéressant de souligner que, de la même façon que, pour son analyse du 19e siècle, Polanyi s'appuyait sur les observateurs du 19e, il fait la même chose avec les sociétés antiques. Il ne se rend pas sur place, il ne va pas sur les terrains où pourraient subsister des traces de ces économies antiques. Il s'appuie aussi sur des auteurs très connus qui ont observé ces faits-là, et dont Aristote. Il lui accorde une grande place, on va dire, dans sa pensée, notamment dans un article qui s'intitule « Aristote découvre l'économie », et ça, c'est une méthode qui est propre à Polanyi, de s'appuyer sur des auteurs qui ont observé les faits.
Oui, c'est une méthode qui lui est propre, mais qui sera reprise par beaucoup d'économistes et d'historiens économistes. Simplement, il faut peut-être dans ce débat distinguer entre les marchés et le marché avec un grand M.
Tout à fait.
Ce qui se passe, dont on a parlé dans une émission précédente, c'est-à-dire l'intégration de toutes les sortes de marchés dans un marché commandé par la théorie du marché avec un grand M, n'existe pas, par exemple, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire peu de temps avant. Un siècle et demi avant.
Exactement, parce qu'on a parlé de Babylone, on a parlé du code d'Hammurabi, de la Grèce antique, etc. Donc ça ramène à des imaginaires très lointains. Mais il faut dire aussi, il ne faut pas oublier que Karl Polanyi, il date finalement l'économie moderne au 19e siècle. Et entre les deux, il y a quand même une sacrée période. Et donc quelque part, Polanyi nous parle de l'Ancien Régime. Et ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, dans le sens où au Moyen-Âge, on voit un système bancaire se mettre en place, on voit des foires apparaître, on voit un commerce presque international aussi se mettre en place. Et malgré tout, Polanyi soutient que ça ne correspond pas à une économie moderne, à un capitalisme de marché.
Alors, ce n'est pas exactement un capitalisme de marché, effectivement, mais c'est déjà du capitalisme. Là, le point faible peut-être de Polanyi, et il s'en est rendu compte dans certains passages à ce sujet, c'est de ne pas avoir suffisamment insisté, comme l'a fait Braudel par exemple, de ce point de vue-là, sur la distinction à faire entre capitalisme et marché. Et les marchés d'Ancien Régime sont multiples, eux aussi, et les principaux marchés que l'on trouve durant toute cette période, ce sont les marchés liés aux subsistances pour les villes. C'est-à-dire les villes ont énormément grossi, et donc il faut approvisionner ces villes pour les subsistances. Et là, il y a de multiples moyens à la fois de régler le marché, la nonne en est un, emprunté aux Romains, c'est-à-dire le grenier urbain avec ses stocks et la redistribution dont a parlé Alain tout à l'heure, l'autre Alain, et de l'autre côté, la police des grains, telle qu'on va la voir en Angleterre et en France. Et c'est peut-être pas un hasard si ce sont les deux pays qui vont voir les premiers naître une autre pensée économique dont parle Polanyi dans son grand livre sur la grande transformation.
Alors Alain Caillé, on a voilà, évoqué une histoire très très large, mais il faut dire aussi que la pensée de Karl Polanyi s'inscrit dans une actualité. Son idée, c'est aussi qu'en remontant le temps et les civilisations, on peut prouver que les échanges humains peuvent se dérouler efficacement et de façon juste, autrement que sous l'égide du marché. Et ça, c'est une leçon qu'on peut retenir de Karl Polanyi.
Je ne peux que vous dire oui.
Et ça, vous l'avez exploité vous-même avec l'idée d'un mouvement convivialiste. Et vous trouvez encore des échos de la pensée de Karl Polanyi aujourd'hui. Et vous pensez que ces leçons-là, elles sont applicables dans la société actuelle.
Mais pour l'essentiel, oui. C'est pas seulement qu'elles sont applicables, c'est qu'elles doivent être appliquées. Mmh. Ça devient une question de survie purement et simplement, à commencer par une survie écologique. On revient à la question de la subsistance. Mais je reviens à ce que je disais en introduction. Le souci premier de Polanyi, ça a été de montrer qu'on peut faire reposer une société démocratique et humaine sur autre chose que le postulat que les hommes cherchent uniquement à satisfaire leur intérêt individuel. Et c'est cette idée-là qui essaie de développer un courant de pensée international qui s'appelle le convivialisme et qui, au fond, prend le relais. Parce qu'il faut, on peut dire autrement, Polanyi, au fond, a essayé de fonder un marxisme à visage humain, de sortir des erreurs du marxisme. Mmh. Et somme toute, c'est un enjeu colossal aujourd'hui. Face au néolibéralisme, qu'est-ce qu'on a à opposer? Il faut s'inspirer d'une pensée elle-même tributaire de ce qu'a découvert Polanyi.
Merci à tous les deux, Alain Guéry et Alain Caillé, d'avoir exploré avec nous aujourd'hui les cités antiques vues à travers les yeux de Karl Polanyi. Je rappelle que vous avez tous les deux contribué à la réédition de l'ouvrage « Commerce et marché dans les premiers empires sur la diversité des économies » paru aux éditions Le Bordelot en 2017, une réédition qui suivait une première édition dans les années 70 par Larousse. Vous pouvez retrouver toutes ces références sur le site de France Culture ainsi que l'émission en elle-même, site sur lequel vous pouvez également trouver donc les références de vos ouvrages, l'émission à réécouter, sauf si vous préférez le faire depuis votre poste, et dans ce cas, rendez-vous ce soir à 20h30. Merci à Françoise Le Floch qui a réalisé cette émission, à Grégory Wallon qui l'a mise en onde et à Diane Devancé qui l'a préparée.